C'est l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, précisément 13h39. L'émission tire déjà à sa fin avant d'entrer dans le vif d'un sujet très intéressant qui vous fait toujours réagir, c'est-à-dire l'immigration. Et je vous rappelle le numéro 418-971-1021. Tripons un peu sur ce qui s'est passé hier soir à Montréal.
Et Suzuki l'emporte. Hudson avec un pivot. Hudson, une autre feinte. Derrière à Caulfield. Caulfield. Cole Caulfield. L'homme des grandes occasions donne la victoire aux Canadiens.
Antonine, as-tu senti la terre vibrer à Montréal hier quand Cole Caulfield a marqué un but en prolongation?
Hey, je l'ai tout senti vibrer.
Ouais.
Honnêtement, là, tout le monde parlait de ça.
Ah oui?
Je suis partie de ma chambre d'hôtel pour me rendre chez Nouveau hier soir, parce que je faisais un débat, j'embarque dans mon Uber, c'était la game de hockey, mais à tue-tête. Là. C'est assez rare que les chauffeurs Uber mettent des affaires à tue-tête, mais là, je me suis dit, bon, là, je vais m'endurer. Quand je suis arrivée chez Nouveau, ben, il faut que tu saches qu'il y a les studios de RDS qui sont en même place aussi.
Fait
que ça vibrait au rythme du hockey. Puis à une minute qu'on entre en onde, on était à 4-4. C'était égalité.
Et le Cole l'a mis dedans.
Exactement. Oh, juste là, avant d'entrer en onde, tout le monde était bien excité.
T'as vécu cette frénésie du Canadien, mais sache que t'es de retour à Québec demain, mais le Canadien joue demain soir contre les Prédateurs de Nashville à domicile. Sinon, dans l'actualité, bien, mauvaise nouvelle là, pour les acheteurs de maisons à Québec parce que la valeur d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 16,5% par rapport à la même période l'an dernier. Alors, malheureusement, le prix qui ne cesse de monter. Maintenant, un bon vieux bungalow, c'est 452 700 $ en moyenne au troisième trimestre de 2025. Il y a Bruno Marchand, justement, qui a fait une sortie par rapport à la situation Respect citoyen Leadership Québec en mentionnant que les tractations entre Stéphane Lachance et Sam Ahmad relèvent du copinage entre de petits amis et il dénonce justement cette situation. Et à suivre aussi, c'est sur Radio-Canada, la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, qui prolonge jusqu'à la fin 2025 les mesures de surveillance et d'accompagnement imposées en octobre 2024 au Centre de services scolaires de Montréal au sujet de l'école de Bedford. Elle mentionne que c'est les accompagnateurs qui jugent avoir besoin de plus de temps d'observation pour s'assurer que la phase d'accompagnement ne soit plus nécessaire et elle les effets escomptés. Justement, parlant de Bedford, Antonine, je veux qu'on parle d'immigration et réagir au 418-971-101 parce qu'il y a trois chroniques que j'ai lues ce matin qui m'ont justement laissé un peu pantois face à l'immigration. La première, c'est Mario Dumont qui écrit « 21 écoles montréalaises comptent dans leur classe plus de 90% d'enfants nés hors Canada. Pour compléter le portrait statistique, 83 écoles accueillent plus de 80% d'élèves nés hors pays. Si on place la barre aux deux tiers des élèves nés hors pays, alors le nombre d'écoles concernées grimpe à 162 et ça, c'est seulement dans la région de Montréal. Alors, en conclusion, il dit « Il faut répartir l'immigration entre les régions, réduire les seuils, ce sont des urgences si on croit que la mission de l'école est toujours l'intégration sociale des personnes immigrantes. » Antonine, ces chiffres-là, bien que j'avais conscience qu'à Montréal, il y avait énormément d'immigration, ces chiffres-là m'ont vraiment étonné.
Ouais, puis Mario Dumont dit qu'il faut régionaliser l'immigration. Mais ça, ça fait longtemps.
Ben oui, ça fait longtemps que j'en entends. Écoute, j'avais 20 ans, puis je travaillais en collaboration avec le patron de Jonquière, puis on parlait de ça du côté de la région du Saguenay. OK, il faut accueillir plus d'immigrants parce qu'on a des problématiques de main-d'œuvre.
Plus longtemps que le tramway à Québec, je sais pas, probablement.
Ben écoute, j'avais 20 ans, fait que là, j'ai 45, bientôt 46. Fait que oui, 2000, ça fait plus longtemps. C'est 2007, tu m'as dit tramway.
Ça fait plus longtemps. Donc, l'affaire avec la régionalisation de l'immigration, c'est qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que, bon, il y a une forte concentration d'immigrants qui viennent à Montréal. On parle autour de 75-80% à peu près là, qui se concentrent à Montréal. On considère que ça crée des enjeux d'intégration, des fois aussi de francisation. Quand tu es dans un milieu où tu es entouré de gens qui parlent ta langue plutôt que d'entendre parler français, ben ça fait comme un cercle vicieux. Alors que on imagine la belle histoire de l'immigrant qui arrive en région et qui n'a pas le choix de s'intégrer, puis que les gens sont bien accueillants, puis là, tu apprends le français hyper rapidement, puis tout ça. La réalité, c'est que, ben, il y a des gens qui vont arriver ici puis qui vont vouloir aller plus dans leur communauté. Des fois aussi, tu vas avoir des points de repère, des personnes que tu connais déjà, des membres de ta famille également. Donc, ça fait toujours boule de neige. Ça attire de plus en plus de monde au même endroit. Puis la métropole, ben, c'est un endroit de toute façon aussi qui est peut-être des fois plus attractif pour les établissements d'enseignement, pour les emplois, etc. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle de ça, de cette régionalisation, mais le problème, c'est que les immigrants, c'est pas des pions. Là. Tu peux pas dire, bon, ben,
non,
toi,
c'est
tu
ça.
Vas aller t'installer au Bas-Saint-Laurent, puis là, toi, tu vas aller... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis quand on regarde les seuils d'immigration, on a un nombre général, mettons 50 000, c'est nos seuils d'immigration. On peut pas dire, bon, ben, ça va être 30 000 à Montréal, puis là, on va en mettre 10 000 dans les... Non, ça ne fonctionne pas comme ça, l'immigration. Donc, quand Mario Dumont arrive avec sa deuxième proposition qui est de baisser les seuils d'immigration, bien, si vous voulez baisser le nombre d'immigrants à Montréal... Ça passe par la baisse des seuils d'immigration généraux. Puis ça, c'est sûr que les régions, il y en a plusieurs, des acteurs économiques, notamment des régions, qui se plaignent parce qu'ils disent « Oui, mais nous, là, on a de la place pour mm-hmm. accueillir le monde. On a des entreprises qui ont besoin de main d'œuvre, on en voudrait plus. » Mais dans la vraie vie, c'est très difficile de les attacher à une région en particulier, sauf pour les travailleurs étrangers temporaires. Mais c'est de l'immigration qui est... Temporaire,
clairement, parce qu'un immigrant permanent, justement, va chercher à se regrouper familialement. Tu as tellement raison. Puis en même temps, les paniers de services ne sont pas les mêmes en région. Là. Je fais juste penser, exemple, à des organismes communautaires qui peuvent les accueillir dans des banques alimentaires au départ, les organismes qui vont faire de la francisation, par exemple. Le réseau Absolument. Scolaire non plus n'a pas cette force de frappe-là qu'il peut avoir là, au sein des grandes villes.
Un peu partout au Québec qui ont la crise du logement aussi, hein? C'est pas
oui, c'est vrai.
À Montréal. Mais on voit qu'il y a des initiatives maintenant un peu plus granulaires, c'est-à-dire que, par exemple, pour les travailleurs étrangers temporaires, le fédéral a coupé beaucoup il y a un an, mais le Québec dit, d'ailleurs, c'est un peu, ça rentre un peu en contradiction avec leur message habituel, mais dit, bien, nous, on voudrait que vous coupiez à Montréal puis à Laval, mais pas dans le reste du Québec, s'il vous plaît, c'est parce que c'est la seule forme d'immigration aussi qu'on est vraiment capable de régionaliser parce qu'ils sont liés à un employeur en particulier.
En effet.
On voit que une prise de conscience que c'est pas la même réalité en région et à Montréal pour l'intégration, la francisation, mais aussi le portrait pour l'emploi.
Mm-hmm. Mathieu Boc-Côté qui écrit à propos de Régis Labeaume. Il dit « Mon oncle Régis nous a fait la morale dans la presse avec son texte. Non, nous ne haïrons pas les immigrants et les musulmans. » Et pour résumer ses propos, Mathieu Boc-Côté dit « Régis Labeaume accuse ceux qui veulent raffermir la laïcité et ceux qui critiquent les politiques d'immigration délirantes des dernières années de verser dans le racisme et la haine des immigrants. » C'est un discours qu'on entend souvent. T'en penses quoi, toi, Antonine, qui est une spécialiste?
Ben, merci de me donner l'étiquette de spécialiste.
Ben oui, je te considère comme ça.
Merci, j'apprécie. Pour préciser, en passant, j'ai travaillé dans des cabinets, notamment le cabinet de l'immigration. C'est des dossiers que j'ai suivis avec attention. Et moi, je considère que c'est des débats qui sont sains et légitimes. Donc, de discuter ensemble de baisser les seuils d'immigration, de discuter aussi ensemble des enjeux d'intégration qu'on connaît à l'heure actuelle. Tu parlais tantôt dans les nouvelles de l'école Bedford. Tu oui. parlais de la chronique de Mario Dumont qui fait état d'écoles dans lesquelles on a une très, très forte concentration d'immigrants de première génération. Et ça crée des enjeux d'intégration, bien évidemment. Et dire ça, ce n'est pas raciste. Parler de ces enjeux-là, ce n'est pas raciste. Maintenant, il se passe quelque chose à Québec en ce moment. Puis d'ailleurs, ça se passe dans mon quartier. Fait que je peux t'en parler.
Ah, voyons.
On a des graffitis vraiment dégueulasses.
Oui, ah oui, dégueulasses sur la promenade. Oui, c'est ça, sur la promenade bon. Samuel de Champlain. Ça, ça n'a pas de sens.
Dehors,
ça.
Les musulmans, des croix gammées. Ouais. OK, des horreurs absolues. Puis moi, je passe par là à tous les matins et sérieusement, ça me pogne au ventre. Ça me met en maudit. Pourquoi je parle de ces graffitis-là, c'est que il y a une certaine partie de la population, je pense que Régis Labeaume peut-être en fait partie, qui pense que d'avoir un discours politique sur l'immigration, qui dit qu'on a atteint notre limite d'intégration, notre capacité d'intégration et d'accueil, qui parle d'entrisme religieux dans les écoles, de signes religieux, bon, mais ça, tout ça dans un grand melting pot, ça vient comme décomplexer les gens qui sont racistes. C'est ça, en fait, leur thèse. C'est que si on parle trop de ces affaires-là, on vient dire aux gens, on excite en fait ces gens-là. C'est comme si on faisait en bon français du dog whistle.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
C'est l'expression qui dit qu'on ne dit pas rien de grave, mais on regarde les gens qui disent eux autres des affaires racistes, puis on leur fait des petits clins d'œil de côté en disant « je te légitimise dans tes positions de racisme
mm-hmm. ».
Moi, j'ai bien de la misère avec ça, honnêtement. Je n'ai entendu aucun politicien dire quelque chose de raciste.
Non, moi non plus.
Années. Et quand j'entendais Haroun Boisy, le député de QS, ça a fait grand bruit, là, qui était allé dire devant une assemblée de personnes musulmanes et maghrébines, en fait, de venir dire qu'il voyait des politiques racistes à l'Assemblée nationale qui étaient motivées par la haine et la peur de l'autre, des hommes noirs, des autochtones, des musulmans, etc. Ça m'avait hautement choquée parce que c'est objectivement faux. Il n'y a pas de politique ouvertement raciste à l'Assemblée nationale. Il y a du racisme au Québec. Puis regarde, je te parlais des graffitis tantôt qui lèvent le cœur. Il y en a des gens racistes au Québec. Puis il faut leur dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est pas vrai qu'on va arrêter de parler, de faire des débats sur l'immigration puis les défis d'intégration qu'on a en ce moment au Québec. Les demandes d'accommodement aussi, dont on entend parler régulièrement. On a le droit de parler de ces enjeux-là. Il faut le faire avec respect. Il faut le faire avec empathie aussi pour les personnes.
Il faut le faire avec doigté.
Faire attention au choix des mots.
Exactement. Vois-tu, un auditeur ou une auditrice nous écrit « Charlebourg dans le haut de Bourg-Royal, mon quartier, justement, accueille beaucoup de personnes immigrantes. Ils s'intègrent entre eux, donc c'est le constat qu'on fait. Les écoles sont maintenant pleines. Le service de garde a même perdu son local. » Donc, on voit quand on parle justement de problématiques de surpopulation dans une école, c'est un très bon exemple, et d'intégration là, qui est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens là, de la même communauté qui est au même endroit.
Dans les écoles, on reçoit beaucoup de témoignages, effectivement, qu'il y a une pression sur nos services publics.
Oui.
Par contre, il faut joindre ça aussi au fait qu'on ne se planifie pas très bien au Québec.
Et crime que non, ça n'a pas de sens. Là. Ben non, ça n'a pas de sens.
On n'a même pas besoin de l'immigration pour mal...
Écoute, on n'est même pas capable de voir la démographie naturelle poindre à l'horizon. Là.
Écoute,
et Charlebourg est...
Écoute, exemple, Jeff.
Vas-y.
Écoute, il y a eu un baby boom en 2005, 2006, 2007 au Québec. Je le sais, j'en faisais partie. Moi, j'ai eu mon fils dans ces années-là. Ils sont tous rendus au cégep. Les infrastructures de cégep, en ce moment, c'est une vraie catastrophe. Hey, ils sont nés en 2005, 2006,
ben,
2007.
C'est ça.
On le savait bien quand est-ce qu'ils iraient au cégep.
Exactement. Mon gars est rentré, mon plus vieux est rentré à maternelle en 2012. À ce moment-là, j'étais capable de te dire que dans 6 ans, ça allait prendre une nouvelle école secondaire parce que les classes de maternelle débordaient. Mais cette école secondaire-là est venue 11 ans plus tard. Donc, t'es mon gars, le temps de finir son secondaire avant qu'elle arrive. À un moment donné.
Donc, on se planifie mal et en plus, on a eu effectivement une grande vague, notamment de demandeurs d'asile là, dans la région de Montréal. C'est un enjeu. Puis la commission scolaire de Montréal, le centre de services scolaires, pardon, avait dit que ça crée des enjeux de classe qui débordent et tout ça. C'est des réalités objectives. Cela dit, on est capable nous-mêmes de mal organiser nos services publics. Hein.
Clairement. Il nous reste un petit 2 minutes, Antonine, puis je veux t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on devrait être plus large dans la reconnaissance des acquis? C'est Pierre-Olivier Zappa qui parle de ceci en disant que vendredi dernier, Statistique Canada nous apprenait qu'un immigrant sur 3 occupe un emploi sous-qualifié par rapport à ses diplômes, des ingénieurs qui préparent des cafés, des enseignants qui vendent des forfaits cellulaires, des infirmières qui changent carrément de domaine. C'est cliché, mais c'est malheureusement trop souvent la réalité.
Tu sais, ça me touche directement parce que c'est comme ça que ma famille a immigré au Québec.
Ah oui!
En fait, mon premier membre de ma famille qui a immigré ici s'appelait Benoît Yacarini. C'était un enseignant, en fait, un prof d'université. Mais il y a le frère de ma grand-mère qui a immigré, qui s'appelait Fulvio Limongelli, et il était chirurgien. Donc, un médecin spécialiste d'origine italienne qui avait étudié dans des grandes écoles, etc. Et qui voulait... Les Italiens ont beaucoup... fait la diaspora, notamment après la guerre et le passage de Mussolini en Italie. Et il appelait carrément dans les hôpitaux au Québec pour se faire embaucher. Okay? C'était comme ça son système d'immigration. Et il a été effectivement embauché à l'hôpital Jeffrey Hill à Québec. Mm-hmm. Et il a dû recommencer de son internat.
Donc, ça n'a pas de sens.
Il se promenait avec des petits jeunes qui commençaient leur médecine et tout ça. Et il a tout recommencé du début. Il n'y avait aucune de ses compétences ou à peu près qui était reconnue au Québec. Ça, je te parle de ça, c'est des années 60.
Oui.
Ça commence à dater.
Mais là, alors qu'on manque de main-d'œuvre spécialisée, là, je regardais infirmière, enseignant, ingénieur. Il pourrait peut-être bien faire.
Des enjeux de reconnaissance, des diplômes et des acquis. En même temps, la qualité d'enseignement un peu partout dans le monde peut avoir des variations aussi. Mm-hmm. Puis, parallèlement à ça, ce qui est un peu débile avec tout ça, c'est qu'on a coupé aussi dans les étudiants internationaux qui, eux, obtiennent des diplômes d'ici qu'on va reconnaître. Mais là, on a coupé drastiquement parce qu'il y avait trop, on en avait trop dans toutes les catégories. Fait qu'à un moment donné, il a fallu couper quelque part. Puis c'est plus facile de couper dans les étudiants que dans les demandeurs d'asile parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Et là, on a un taux de chômage qui augmente en ce moment. Et quand le taux de chômage augmente, malheureusement, ça touche de manière disproportionnée les personnes immigrantes. Quand il y avait une pénurie de main-d'œuvre, ça donnait aussi une chance à des gens qui ne sont pas toujours les premiers à se faire rappeler par les employeurs de travailler davantage. Je pense mm-hmm. aux personnes plus âgées, je pense aussi aux minorités visibles qui, on le sait, là, des fois, peuvent faire face à des biais, des fois inconscients ou conscients, là, de certains employeurs. Et les jeunes, en ce moment aussi, en paient le prix, mais on voit des taux de chômage qui commencent à être très, très élevés et qui peuvent nous inquiéter aussi, parce que ça aussi, ça fait partie de la capacité d'accueil en immigration, c'est d'être capable de leur donner un emploi à la hauteur de leurs compétences. Puis c'est par le travail et par l'école chez les plus jeunes, mais surtout par le travail, qu'on peut avoir une intégration comme personne immigrante qui est réussie. Puis c'est dans les milieux de travail aussi qu'on améliore notre maîtrise de la langue française, si ce n'est pas notre première langue. Donc, c'est quand même une lumière jaune là, qui s'allume du côté des taux de chômage.
Antonine Niakarimni, tellement bien dit. On conclut là-dessus. Tu es avec nous demain à Québec?
Yes, on se voit demain en personne.
On se voit demain en personne et ça sera le retour de Pascal Cévin en ondes avec nous à l'émission On en jase. On vous laisse avec le retour de Gravel, Denis Véraud et Audrey arrivent à l'instant même. Merci d'avoir été à l'écoute. À demain, guys.